Alors on a essayé un petit peu de canaliser et de faire oublier aux gens ces croyances, mais chaque année, les Cubains, surtout à peu près une 40 km à 60 km de La Havane, il y a le San Lázaro, qui est un saint dit catholique, et que les Cubains allaient voir. En fait, derrière le San Lázaro, il y avait un dieu africain, Babalu Aye. Et chaque année, de plus en plus, aussitôt que la révolution a commencé un peu à décevoir les Cubains, de plus en plus, on se tournait vers Babalu Aye pour lui demander une grâce, pour lui demander d'aider les gens dans les grands moments de difficultés. Et par exemple, cette année 17 décembre, il y a eu un monde absolument énorme qui s'y est rendu, et maintenant le gouvernement est bien obligé d'accepter ce genre de démarche, et on commence à mettre à disposition des bus spéciaux, parce que ça revient plus que jamais, d'autant plus que les conditions économiques et la vie deviennent de plus en plus difficiles, puisque la vie devient de plus en plus difficile, que le communisme idéologiquement ne satisfait plus les gens, on se tourne de nouveau vers les saints.
Ce n'est pas le moment pour vous d'entrer en transe en écoutant Remue Ménage et Radio Zone 93.8, parce que Odette a encore beaucoup de choses à nous raconter de son séjour à Cuba, qui est tout récent, puisque Odette, c'était donc en décembre dernier.
C'était effectivement en décembre dernier. Bon, j'ai pas énormément de choses à raconter parce que ce n'était que 3 semaines. Donc, il y avait des impressions fugitives, mais souvent les premières impressions sont importantes. Et j'ai profité aussi de croiser, de rencontrer quelques femmes, parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui animait les femmes cubaines.
Alors, ces femmes, tu les as rencontrées, en fait, dans le circuit qui est, entre guillemets, autorisé aux touristes, c'est-à-dire, justement, dans les infrastructures que fréquentent les touristes et que ne fréquentent que rarement les Cubains eux-mêmes, puisque, et comme on le disait tout à l'heure, il y a cette sorte de dichotomie entre les lieux que doivent fréquenter les étrangers parce qu'ils amènent des devises, et puis ceux où ne peuvent pas aller, bien sûr, les Cubains eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter les choses que l'on laisse acheter aux touristes. Alors, tu peux nous présenter peut-être la première femme que tu as rencontrée, dans quelles circonstances?
Bon, j'ai rencontré effectivement j'ai rencontré des femmes qui travaillaient dans l'hôtellerie, qui travaillaient dans la restauration. J'ai eu des adresses aussi de femmes artistes. J'ai aussi rencontré des femmes dans la rue qui m'ont une femme dans la rue qui m'a abordée. Donc c'était un petit peu au hasard, puis surtout au hasard de ma curiosité, parce qu'en fait les femmes, si elles te font signe dans la rue, dans les endroit public, c'est en te montrant les lèvres, parce qu'elles auront envie que tu leur offres un tube de rouge à lèvres, ou elles te montrent leurs cheveux parce qu'elles auront envie peut-être que tu leur proposes un shampoing. Toutes choses qui sont extrêmement difficiles pour elles d'obtenir aujourd'hui, ou en tout cas qui coûtent très cher. Ça va de la savonnette aux gants de toilette, aux parfums, et même à des choses plus élémentaires comme le dentifrice.
Et ça, elle n'hésite pas à s'adresser aux touristes, dans le sens que il y a ce lien qui fait aller offrez-moi ça, ou bien aller acheter ça pour moi. C'est une relation qui est simple, ou c'est de l'ordre du camouflage? Il faut surtout pas montrer qu'on a des contacts avec les touristes.
Bon, c'est-à-dire que c'est vrai que les femmes, elles sont elles sont plutôt en retrait. Mais souvent, elles demandent à leur petit copain ou à leur mari de venir vers toi. Et si, par exemple, tu te promènes... Une fois, je me suis promenée à la Havane devant une vitrine d'un grand hôtel et du Habana Libre. Et il y avait un couple... qui était devant cette vitrine. Et c'était une vitrine où il n'y avait que des chaussures de femmes. Et j'ai vu à un moment donné que la femme a donné un coup de coude à son mari. Et lui, il est venu vers nous et nous a dit « Est-ce que demain, vous serez encore là parce qu'on aimerait vous donner des dollars pour que vous puissiez m'acheter acheter pour ma femme cette paire de chaussures ?» Quand je me promenais dans les rues de Trinidad et que je mettais du rouge à lèvres, il y avait les femmes qui me montraient les lèvres et elles me disaient « Est-ce que tu en as aussi pour moi, voilà. Mais en principe, souvent, c'est les hommes. Par exemple, à Varadero, qui est un lieu très touristique, il y a des garçons qui viennent vers toi et sur la plage et qui t'entraînent ensuite devant les vitrines des magasins et qui te demandent d'acheter un jeans pour leur enfant, d'acheter une jupe pour leur femme ou de leur acheter pour eux un blue jeans, parce qu'évidemment, à Cuba, tout le monde rêve de porter des jeans.
Mais ça, en tant que touriste, toi qui t'es promené dans la rue comme ça, c'est pas un peu pesant à un moment donné de sentir que tu es la seule ou parmi les seules à pouvoir s'offrir un certain nombre de choses, que les gens dépendent tellement du touriste et voient tellement que ce touriste peut avoir des choses, comme on le disait un
c'est
peu tout à l'heure.
C'est insupportable parce que d'abord tu peux plus avoir des relations simples et clarifiées de tout intérêt. Tu sais que les gens, quand ils viennent vers toi, c'est pour te demander en général quelque chose. Ça, je te parle des relations spontanées qu'on peut avoir dans la rue et autres. Ensuite, moi j'ai rencontré par exemple une femme peintre qui fait un travail vraiment étonnant et j'avais envie de lui acheter par exemple un tableau. Au début elle m'a dit non, j'ai envie de le garder parce que je vais l'exposer bientôt. Et puis quelques jours plus tard, quand je lui ai reposé la question, elle avait tellement besoin d'argent et surtout de dollars parce que ça lui permettait de partir à l'étranger pour exposer. Sinon là, on ne peut pas quitter Cuba si on n'a pas des dollars. Donc, mais presque tout le temps, les gens manquent de tellement de choses que même s'ils ne te demandent pas, tu vois bien qu'ils vivent dans une telle rareté que spontanément, tu leur donnes des choses.
Mais en plus, le contact avec l'étranger du point de vue de cet échange de dollars, il est interdit, non ?
Bien sûr, tu peux absolument pas les Cubains. À aucun moment n'ont le droit de posséder des dollars. S'ils se font surprendre, eh bien, ils vont en prison. Par exemple, sur la plage de Varadero, il y avait des ouvriers qui travaillaient dans le bâtiment. Varadero, c'est un endroit sur lequel le gouvernement met énormément met l'accent pour développer le tourisme, parce qu'il y a de très belles plages au sable fin, vraiment très lumineux. Et donc les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers, ils travaillent près de 14 heures par jour, donc ils ont des bons salaires en termes d'argent cubain. Et il y a un marché noir où ils peuvent, eux, acheter des dollars et ensuite ils viennent vers nous. Mais le plus grave dans tout ça, Catherine, c'est cette... on sait que Cuba, c'est un régime communiste, donc on se dit qu'il y a une égalité quand même entre les gens. Et c'est vrai qu'à Cuba, il n'y a pas des différences de classe sociale comme dans la plupart des pays du tiers-monde et même chez nous. Mais il y a une autre discrimination qui est une vraie ségrégation, c'est les endroits pour touristes et les endroits pour Cubains. Il y a des tas d'endroits où les Cubains, parce qu'ils n'ont pas de dollars, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des dollars, où ils ne peuvent pas y aller. Par exemple, il y a au large de la Havane, il y a une petite île qui s'appelle Cayo Largo. Et le gouvernement a décidé d'en faire une île touristique, une sorte de petit havre de paix pour touristes occidentaux. Les Cubains, j'ai rencontré plein de Cubains qui, alors que Cayo Largo, ça appartient à leur pays, ils rêvent d'y aller, ils n'ont jamais pu y aller. Il y a des endroits comme ça, comme les hôtels par exemple, les très bons restaurants, où si on n'est pas un Cubain accompagné d'un étranger, on ne peut pas y aller. Et on est même rejeté, mis à la porte. Il y a par exemple un endroit à La Havane qui est très connu parce que Hemingway y allait, et évidemment il est très fréquenté par les touristes, mais les Cubains qui viennent de Santiago de Cuba ou d'autres endroits de la Havane ont envie d'aller voir le repère où Hemingway buvait ces fameux cocktails comme Daiquiri ou le Mojito. Ils ont envie d'y aller, mais la première chose quand ils rentrent, quand ils s'assiedent, le garçon leur demande « Est-ce que vous avez des dollars ?» Évidemment, le Cubain ne peut pas avoir de dollars. Donc souvent, il dit « Non, alors il dit « Partez ». Et souvent, les touristes, quand ils entendent ce genre de dialogue, ils ont honte et puis payent un verre, une bière à un Cubain. Et ça, c'est terrible parce qu'en plus, même quand on est touriste, on est frustré de ça. Nous, on a envie de croiser des Cubains, on a envie d'être sur des plages où il y a des Cubains, on a envie d'être dans des hôtels, dans des restaurants où il y a des Cubains. Si on veut aller au restaurant où il y a des Cubains, il faut attendre 3 heures et on n'a pas cette patience-là. Voilà.
Et puis de rencontrer les gens au point de pouvoir leur parler, ce que tu as fait avec les femmes dont tu vas nous parler, est-ce que ça se fait facilement ? Est-ce qu'il est facile de rencontrer les Cubains et d'avoir autre chose que ce type de relation superficielle, tu m'achètes ci ou tu m'offres un verre ?
Bon, alors moi, quand j'ai voulu rencontrer, oui, c'est très facile, mais où c'est plus enfin, oui et non. J'ai rencontré, quand j'étais dans un hôtel de Trinidad, il y avait une fille qui travaillait au service d'information parce qu'elle savait le français. Quand on sait les langues étrangères, automatiquement, on obtient des emplois dans le tourisme, dans les hôtels, dans les offices d'information. Et elle était dans le hall. Et je l'ai approchée, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien, c'était une jeune fille de 23 ans, j'aimerais bien te parler pour un magazine suisse. J'aimerais un petit peu t'interviewer, toi, jeune femme de 23 ans, travaillant dans cet hôtel-là. Est-ce que c'est possible ? Et elle m'a dit, écoute, il faut que je demande d'abord à mon directeur. Il a fallu que j'attende pendant 3 jours l'autorisation du directeur, qui était souvent pas là. Alors il y avait un autre homme qui travaillait aussi à ses côtés, un barboudos, un peu avec le physique
à la fidèle.
Et lui, il m'a d'abord demandé ce que j'allais demander à cette jeune fille. Et seulement après, j'ai eu l'autorisation de lui parler. Évidemment que son langage était extrêmement positif, c'était vraiment la langue de bois, même s'il y a quand même d'autres choses qui ont passé. J'ai rencontré la jeune femme artiste, elle, c'était la plus libre de tout. Elle disait ce qu'elle... Parce que je l'ai rencontrée par le truchement d'une amie commune, donc elle m'a parlé en toute liberté. J'ai rencontré une autre femme extraordinaire qui était serveuse à l'hôtel d'Angleterre, qui m'a reçue chez elle. Elle a parlé évidemment librement. Mais comme le disait tout à l'heure Corinne, on ne parle jamais librement d'abord à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et même une amie d'amis qui nous connaissait par voie interposée, elle a mis énormément à commencer à nous dire ce qu'elle pensait. Et encore, elle ne l'a pas vraiment dit. Donc en fait, personne ne te parle vraiment à Cuba parce qu'on a quand même un peu peur. Et puis c'est aussi un pays qu'on aime, dont on est fier. Donc on n'a pas envie de critiquer ce pays-là.
Il y a ce que tu dis qui est extrêmement important et sûrement le principal, mais il y a aussi, semble-t-il, un minimum de règles, comment dire, par rapport à la couleur locale, à respecter, du genre, les choses ne vont pas vite, il ne faut pas vouloir speeder tout le temps comme on speed en Europe, il faut s'armer de patience pour voir les choses arriver, il ne faut pas taper du poing sur la table, non, exiger, mais peut-être utiliser des petits noms charmants du genre « mi amor, mi cielito », non ?
C'est vrai que quand on arrive, par exemple, dans un hôtel, la première chose... On te dit, j'ai réservé une chambre, est-ce que je peux avoir ma chambre ? On te dit non, on ne voit pas votre nom, vous n'avez absolument pas réservé. Alors tu montes la quittance de ta agence de voyage, tu dis mais oui, voyez bien que j'ai réservé. Alors elle s'assied, la personne en question s'assied, que ce soit un homme ou une femme, prennent tout leur temps. Et puis au bout d'un moment, tu reviens, tu insistes et tu dis mais vraiment, vous croyez qu'il n'y a vraiment pas de chambre réservée pour moi ? Alors elle prend le téléphone, elle fait 2 ou 3 téléphones et puis elle dit toujours non. Et c'est là que tout d'un coup, parce que on me l'avait dit, les Cubains, les Cubaines, il faut absolument pratiquer l'humour. Et quand au bout d'un moment, on commence à jouer, on se dit, mais vous voulez vraiment que je dorme comme ça à vos pieds dans le hall de l'hôtel ? Et ils se mettent à rire et tout d'un coup, tout se résout très vite. Mais en fait, tout se résout à Cuba, surtout si on a des dollars. Oui, alors Catherine, moi j'ai rencontré différentes femmes et de différentes catégories sociales. Par exemple, j'ai une des premières femmes que je vais descendre dans l'échelle des générations. Je commence par les plus anciennes, celles qui sont nées avant la Révolution. Et j'ai rencontré tout d'abord Dolores, qui elle est une économiste et que je n'ai pas du tout rencontrée dans le circuit touristique.
Et rappelons juste peut-être, la Révolution, c'était 59.
C'était 59. Voilà. Alors Dolores, elle est née avant la Révolution. Elle avait, je crois, 18 ans ou 19 ans au moment de la Révolution. Et c'était une fille d'une classe moyenne, mais qui a dû travailler très tôt parce que son père est mort à l'âge de 13 ans. Elle s'est mise à travailler. Et quand la Révolution a eu lieu, elle a pu reprendre des études. Elle a pu, parce qu'elle était douée pour la comptabilité, pour les chiffres, et elle s'est lancée dans une carrière d'économiste. Et elle, aujourd'hui, elle a 61 ans. Ça faisait 3 ans qu'elle était à la retraite. Quand je lui ai demandé un tout petit peu le bilan de ce qu'avait été pour elle la Révolution, elle disait, si je devais recommencer... si je devais recommencer ma vie à l'âge de 30 ans, je referais la même chose, parce que la Révolution nous a apporté des choses extraordinaires. D'abord, elle nous a redonné un sentiment national, alors que sous Batista c'était les Américains qui contrôlaient le pays. Et moi, comme femme, j'avais des ambitions professionnelles, je voulais m'épanouir sur le plan professionnel. Grâce à la Révolution, j'ai pu retourner à l'université, j'ai pu faire une carrière à l'égal des hommes. Elle dit aussi que les femmes, c'était pas parce que la Révolution est arrivée là que tout était acquis. Elle a dit, on a dû se battre, parce qu'on vit quand même dans les hommes sont très machos. C'est, évidemment, il y a l'héritage espagnol, et c'est pas parce que la Révolution était là que tout se résolvait. Bon, elle vient d'un milieu privilégié, donc finalement très vite, elle a aussi eu l'avantage des gens qui sont quand même qui ont un salaire relatif, un salaire de fonctionnaire, mais de fonctionnaire d'un certain niveau. C'est que très vite, elle a pu s'acheter une maison. Bon, à Cuba, il y a des facilités d'achat de maisons. Mais elle dit encore aujourd'hui, je referai la Révolution. Et ça, c'était assez beau. Elle dit, ça a été difficile. Il y a eu des choses très douloureuses. Par exemple, toute ma famille est partie à Miami. Sa mère, son frère, sa sœur. Pendant 25 ans, elle n'a pas pu les revoir. Maintenant, quand on est à la retraite, le gouvernement cubain permet une fois ou deux fois, ou chaque deux ans, de retourner, d'aller voir les familles à Miami. Et c'était une des choses qui était très douloureuse sous ce régime castriste. Mais pour le reste, elle trouve que c'est une très très belle révolution, parce qu'enfin les Cubains ont une identité. Por las calles orientales, llenando de humo su ambiente, los barrios y las peñas. La brinda el varado al pueblo con gran optimismo, cantando sus melodías contagiosas, picarescas, larguiruchas.
Et la dame qui travaillait dans l'hôtellerie?
Alors c'était Veneranda, et c'était sûrement une de mes plus belles rencontres que j'ai faites quand j'étais à Cuba. C'était le soir du Nouvel An, et elle servait dans le restaurant où je mangeais. Et sur les coups des 2 heures du matin, il y a eu une chose extraordinaire, c'est que tout d'un coup, il y a eu une chanteuse qui est arrivée, qui s'appelait Juanita la Negra, et qui est une chanteuse de 75 ans, et qui est extrêmement populaire à Cuba. Et quand elle est arrivée par surprise, elle est montée sur la scène, et elle s'est mise à chanter, et tout d'un coup, j'ai vu Veneranda qui nous servait, qui a tout lâché de son service, elle a laissé les plats, elle n'a plus rien fait, et elle s'est mise à danser et à chanter presque en même temps avec la chanteuse. Et c'était extraordinaire parce que normalement, les Cubains, s'ils ne sont pas accompagnés de touristes, comme je te disais tout à l'heure, ne peuvent pas rentrer, mais ils guignaient par la fenêtre. Et ils sont tous pénétrés dans cette salle à manger, et les gens de l'hôtel, le gardien, le concierge, les ont laissés rentrer, et tout le monde s'est mis à chanter et à danser autour de Juanita la Negra. Alors quand j'ai vu Veneranda comme ça s'allumer en entendant cette chanteuse, j'ai été la voir et je lui ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien vous rencontrer et parler un petit peu avec vous. Et elle m'a dit, bon, bah, venez chez moi. Et le lendemain ou deux jours plus tard, j'ai été chez elle dans un quartier de la vieille Havane. Et elle a une maison, enfin, elle avait un appartement très modeste, mais d'une propreté et avec des objets comme ça, très personnels. Enfin, c'était très joliment arrangé. Elle vit là avec sa fille de 23 ans et son fils de 20 ans, parce qu'à la Havane, il y a une surpopulation extraordinaire et les enfants sont même très tard. Même souvent quand ils sont mariés, ils sont obligés de vivre avec leurs parents. Veneranda leur m'a raconté son histoire. Elle vient de la région de Pinar del Rio, au nord de la Havane, qui est une des plus belles régions de Cuba, parce que c'est une région très verdoyante, de collines. On oublie qu'on est sous les tropiques. Et elle est née dans une famille de 21 enfants. Elle était la 18e. Tu vois, Catherine, c'est vraiment... c'était des familles, des tribus. Ouais. Et évidemment, à la campagne, la vie était difficile, ce qui fait qu'à l'âge de 13 ans, elle est venue toute seule à la Havane pour gagner sa vie. Elle a commencé à être servante chez un sénateur. Et quand la révolution est venue pour elle, ça, évidemment, les choses se sont accélérées. Surtout elle qui adorait chanter. Et c'est pour ça qu'elle aimait tellement Juanita la Negra, parce qu'elle retrouvait son époque où elle était une fois aussi chanteuse. Et pendant la Révolution, elle a eu l'occasion plusieurs fois de chanter dans des hôtels, de gagner sa vie comme ça. Et parallèlement, elle était aussi serveuse dans un hôtel. Et elle disait, j'étais deux femmes à la fois. J'étais chanteuse la nuit et j'étais serveuse la journée. Mais elle ne faisait pas que ça. Elle a eu trois enfants. Elle a eu un mari qui très vite l'a encombrée. C'était parce que ce mari détestait que sa femme aille travailler à l'extérieur. Alors il lui a dit, puisque moi je veux continuer à élever mes enfants et à travailler à l'extérieur, eh bien je préfère que tu t'en ailles. Et comme une brave femme, elle a réuni toute son énergie, parce qu'elle ne voulait pas renoncer. Elle sentait que pour elle allait s'épanouir à travers le champ et à travers son travail, et pas seulement en restant à la maison et à s'occuper de ses enfants, même qu'elle adorait vraiment ses enfants. Et très vaillamment, elle s'est débrouillée. Elle disait, je suis fière que moi qui viens de la campagne, j'ai pu élever seule mes enfants et m'imposer en ville. Et alors je lui ai demandé si ses voisins, si les fameux comités de la défense de la Révolution l'ont aidée. Elle m'a dit non, mais où j'ai été aidée, c'est d'avoir pu envoyer mes enfants à l'école. Parce que c'est vrai que dans d'autres pays d'Amérique latine, les enfants traînent dans la rue toute la journée. Et elle, très vite, elle a pu envoyer ses enfants à l'école. Alors aujourd'hui, bon, elle est encore à 5 ans de la retraite. Elle dit, je suis une femme heureuse, je suis bien, mes enfants sont grands, j'ai mes petits-enfants qui viennent vers moi, mais j'ai une nostalgie, j'aimerais pouvoir chanter de nouveau. Et c'est vrai que quand elle voit Juanita la Negra qui remonte sur scène, ou qui est toujours sur scène à 75 ans, elle se dit, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose.
Los caminos que Toñita recorrió. Toñita tenía en los labios una tonada de amor, y sus ojos contemplaban al mundo con ilusión. Toñita llegó una tarde y sonriente me contó que allá en su lejana tierra es el refugio del sol, que allá en su lejana tierra es el refugio del sol, que allá en su tierra es el refugio del sol. Doñita como una vega venía de Sindamadoy y sus cabellos brillaban cuando los besaba el sol. Doñita llegó una tarde, venía de Sindamadoy, ella siguió su camino, el día al mar se quedó. Doñita llegó una tarde y sonriente me contó que allá en su lejana tierra es el refugio del sol, que allá en su lejana tierra es el refugio del sol. Y en su lejana tierra está el refugio del sol.
Doñita venía una tarde, venía de Sindamadoy
y me contó que en su tierra está el refugio del sol.
Doñita venía una tarde, venía de Sindamadoy,
ella siguió su camino.
Alors, tu nous as promis de nous parler aussi de la femme artiste que tu as rencontrée, qui elle est dans une situation plus particulière, j'imagine, en tant qu'artiste.
Juste un petit mot, Catherine, juste pour préciser, là qu'on vient d'entendre Célina González, que Vénéranda aime tellement aussi, qu'elle écoute des fois avec sa fille, et qu'elle danse même sur ta musique avec sa fille, elles font des petits bals à l'intérieur de la maison. Tout ça pour te rappeler quand même que même si les conditions de vie sont difficiles, on danse et on chante beaucoup à Cuba. Alors oui, j'ai rencontré une femme artiste qui s'appelait Zaida del Rio. Alors Zaida, c'est vraiment aussi ce qu'on peut appeler une bénéficiaire du régime, parce qu'à l'âge de 15 ans, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi avec Corinne, c'est que quand elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de dessiner, de peindre, eh bien, il y a des écoles à partir de 15 ans où qu'elle a pu suivre pendant 6-7 ans. Elle a pu se former, elle a pu apprendre à peindre, à sculpter. Et dès qu'elle a commencé son travail d'artiste solitaire, très vite, l'État lui a passé des commandes et elle a pu en vivre. Et c'est aussi quelqu'un à qui on a permis de partir à l'étranger, d'exposer. Et ça c'est important. Malheureusement, on le permet qu'à trop peu de gens. Et c'est vrai que les artistes sont souvent des bénéficiaires. Alors Zaida del Rio aussi, elle a balancé son mari parce que son mari lui empêchait de faire ce qu'elle voulait. Il lui a fait un très beau fils qui a des yeux verts comme elle et des yeux bridés. Un très beau garçon sauvage. Et quand son mari, à un moment donné, lui a dit... Peut-être les conditions de vie à Cuba sont trop difficiles. Partons aux États-Unis, parce qu'en 81, Fidel Castro a légèrement ouvert les portes pour les gens qui voulaient partir. Ça s'est appelé l'exode je ne me rappelle plus, c'est le nom d'un port de Cuba. Et son mari est parti, il lui a dit « Viens avec moi ». Elle a dit « Non, moi je ne veux pas partir, j'aime trop Cuba. Cuba me donne la liberté de créer ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle vit toute seule avec son fils, avec tous les gens du quartier, parce qu'elle n'a pas le temps. Elle est tellement prise par... la fièvre de créer, elle a l'avantage, le privilège de ne pas faire la queue devant les magasins parce que les gens du quartier l'aiment et l'aident. Alors en contrepartie, elle leur donne des dessins, elle leur donne des petites peintures, des petites sculptures qu'elle fait.
Beaucoup de femmes vivent seules apparemment dans ce que tu racontes. Beaucoup, c'est le statut de beaucoup de Cubaines.
Beaucoup de Cubaines parce que finalement, c'est vrai que l'État prend énormément de choses en charge, l'instruction des enfants, les études. Toutes les conditions sanitaires, les conditions médicales sont complètement assurées par le gouvernement et même très très bien. Et puis, quand on est une femme qui travaille, il y a des relais aussi pour moins attendre pour obtenir des produits alimentaires. Et aussi, on peut toujours s'arranger avec les comités de défense de la Révolution pour être secondée, pour mettre les enfants dans un endroit si on doit travailler à ce moment-là. Il y a énormément d'avantages pour les femmes, c'est vrai. Et souvent, elles disent, même si parfois la vie est difficile, on sait que l'État, envers et contre tout, nous soutiendra, même contre les hommes s'il le faut.
Si la rumba est la vacua, la fiesta es santo.
À vouloir faire deux émissions en une, à rencontrer Corinne d'abord et puis nous retrouver des témoins ici, eh bien on se trouve à être prise avec un temps tellement court pour entendre les histoires des femmes qu'Odette a rencontrées. Je le regrette beaucoup, d'autant plus que nous aurions aimé encore parler de cette période spéciale en temps de paix, euphémisme.
C'est une période difficile, là pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes.
Voilà, qui est instaurée en ce moment à Cuba, où tout le monde se serre la ceinture au vu du père soviétique qui a coupé les vivres et des frères de l'Est qui sont eux-mêmes dans suffisamment de difficultés pour plus aider leurs petits frères cubains. Alors, je crois qu'Odette, peut-être on devra se revoir parce que, hélas, le temps de remue-ménage est terminé, la pleine lune pointe à l'horizon. Il faut tourner les boutons pour leur laisser la place. Alors, Odette, merci encore beaucoup d'être venue. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Corinne Souter, musicienne, et Odette Mudry, journaliste, qui toutes les deux ont fait un séjour à Cuba et nous parlaient de ce qu'elles avaient pu vivre et se rendre compte sur ce terrain-là. Odette, à tout bientôt.
À bientôt.